Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Florence.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Pardon ?
Bienvenue sur l'antenne d'RTL, je vous souhaite la bienvenue.
Merci, je suis extrêmement émue de vous avoir au bout du fil.
Ah bon, bah écoutez, j'espère que voilà, ça ne va pas vous empêcher de me parler tranquillement de ce qui vous amène jusqu'à moi ce soir.
Non, ça ne va pas m'empêcher, non.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Florence ?
J'embraye sur le tout dernier échange que vous avez eu avec une personne dont la maman, apparemment, était un vampire.
Oui, Cécile, à l'instant.
Voilà.
Oui.
Ma relation avec ma mère s'est beaucoup apaisée, mais je pense que l'attitude de vampire est pour beaucoup dans la raison pour laquelle je vous appelle, qui est que ma vie sentimentale est au mieux un désastre. Et au pire, c'est Hiroshima.
Ah ben d'accord, entre les deux, oui. Comme...
Bon. Oui.
Entre les deux, il s'est passé quelque chose, entre le désastre et Hiroshima, il y a eu des rencontres, j'imagine. Oui, rire, c'est une façon de... Voilà, de
d'éloigner la tristesse.
Oui, de, voilà, c'est la politesse du désespoir, parfois.
Exactement.
Oui.
Exactement. Exactement, en fait... J'aurais passé pratiquement toute ma vie de femme adulte seule, à quelques exceptions près, quelques relations marquantes qui se sont avérées destructrices. J'ai quand même réussi à passer 15 ans célibataire, mais les humains ne sont pas faits pour être seuls. Et donc, j'ai replongé, hein, voilà.
Et récemment
là, Oui.
Oui.
Comment ?
Récemment, vous avez replongé, comme vous dites ?
Oui, alors, récemment, j'ai ouvert une succursale chez Jardiland, pelvis, terrato, en tout genre. J'ai replongé, mais ça m'a fait mal, mais je m'en remets. En fait... il y a eu une relation importante entre mes 18 et mes 22 ans, une autre entre 22 et 26.
Oui.
Et puis après, justement, j'ai réussi à rester célibataire et c'était pas plus mal.
C'est intéressant la façon dont vous le formulez. J'ai réussi à rester célibataire.
Oui.
Comme si vous aviez rempli un objectif.
Ben, y a un moment où, quand la réalité vous satisfait pas, vous faites autre chose. Me semble-t-il. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, à l'arrivée de la quarantaine, j'étais désespérée. De toute manière, je pouvais faire une croix sur la nombreuse filiation que je souhaitais, parce que j'espérais 4-5
enfants. Des enfants,
ouais.
D'accord.
Et j'ai épousé, alors là, ça a été le troll des trolls, le plus grand pervers narcissique de mes trois relations, quoi.
Pourquoi ? Parce que les autres l'étaient également ?
Je me pose la question.
D'accord.
Je me pose la question, mais en tout cas, celui-là, c'est vraiment celui qui correspond le plus au
Donc,
profil
c'est,
type.
C'est votre dernière histoire, ça ?
Oui.
C'est ça, non ? Et qui s'est terminée il y a combien de temps ?
Ça s'est terminé en octobre 2016, quand j'ai... fichu le camp de la maison que je lui avais trouvée parce que monsieur voulait une maison, un soir où, sous l'emprise de l'alcool, certes, mais quand même, l'alcool a fait que libérer la parole. Je lui ai recraché tout ce que je reprochais à ce que notre relation était devenue. Et je l'ai trouvé très près de moi, l'œil rouge, le teint blanc et le poing à 5 cm de ma figure, en me disant « tu vas la fermer ta gueule, je suis désolée, je parle mal, mais c'est, comme ça qu'on m'a parlé. Et j'ai déménagé, enfin j'ai fichu le camp dans la semaine.
D'accord, oui.
Voilà.
C'est ce qui vous a permis de partir finalement, d'y mettre un terme.
Oui, j'y songeais depuis un moment, mais là, ça, là j'ai compris que si j'allais plus avant, j'étais en danger, vraiment.
D'accord.
Pas seulement en danger psychologique, mais en danger physique. Pour le danger psychologique, j'en avais déjà tâté un peu parce qu'il y a eu un moment où j'ai pas été contrainte, puisque les pervers ne vous contraignent jamais directement, mais j'avais fini par avaler plusieurs plaquettes de calmants.
D'accord.
Bon, ça n'a pas...
Heureusement, ça n'a... Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour me parler un peu de votre vie sentimentale, alors que vous qualifiez de désastre. Aujourd'hui, donc vous êtes seule, si je comprends bien. C'est finalement... Vous faites un constat, alors sans concession, de votre vie amoureuse. Et par rapport à l'avenir, qu'en attendez-vous aujourd'hui? Comment finalement est-ce que vous dites, bon, voilà, au vu de ce constat, c'est terminé pour moi? Ou au fond, j'ai quand même envie d'y croire encore? Ou dans quel état d'esprit êtes-vous?
Je suis partagée. Il y a une partie de moi qui me dit « Tu vois, t'aurais dû faire comme tu pensais le faire quand tu avais 7 ou 8 ans. J'ai eu une crise mystique, je voulais devenir trappiste. Alors j'ai découvert que les trappistes, ils n'acceptaient que les hommes. Alors c'était ennuyeux. »
Et comment ça? Parce que oui, c'est pas banal que vous ayez une crise mystique. Bon, ça peut arriver dans l'enfance, mais pourquoi trappiste?
C'est parce que les trappistes...
Mais comment vous avez connu ça?
Ah, j'ai,
vous avez cherché?
Non, je sors d'une famille extrêmement lettrée et je n'ai jamais eu la télé, donc j'ai toujours beaucoup lu.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous attirait alors chez les trappistes?
Mais c'était super. Ils cultivaient leur jardin, ils faisaient de la bonne bière et ils avaient le droit de parler une heure par jour.
Eh oui, mais c'était des hommes.
Bah oui.
Il n'y avait pas de femmes.
Bah non.
Alors, vous
alors
êtes
après,
dit,
j'ai envie de...
Hein? Vous êtes dit, finalement, on va...
D'après, j'ai envisagé Carmélite.
D'accord.
Ouais. Mais bon, exactement comme dans le bouddhisme, les nonnes sont moins bien traitées que les moines.
Oui, bah, dans beaucoup de religions, d'ailleurs, oui.
Exactement.
On va dire. Allez, on va continuer à se parler d'amour après les infos de minuit.
Bien sûr.
Donc, restez bien avec nous, Florence.
Ne vous inquiétez pas,
on se retrouve dans quelques minutes.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
Suite de Parlons-nous, on est à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi qui sont souvent très attendues par celles et ceux qui témoignent par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS ou encore sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et on vous retrouve, Florence. On vous avait laissé en pleine crise mystique à l'âge de 7-8 ans, voulant devenir, d'ailleurs, on dit moine trappiste. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom. Bon. Quand vous avez vu que ce n'était pas pour vous, finalement, vous êtes devenue une grande amoureuse, parce qu'on sent que l'amour, quand même, a été très idéalisé et a tenu une grande place dans votre vie. Il y a eu des histoires d'amour. Mais à chaque fois, vous êtes tombée sur des hommes qui ne vous voulaient pas que du bien. Ou c'est comme si, au fond, vous alliez vers ceux qui avaient la faculté de vous faire du mal, voire de vous détruire.
Précisément. Précisément. Et c'était précisément le but de mon appel. Parce que j'ai eu le temps de travailler sur moi, j'ai fait différentes thérapies,
Une psychanalyse n'est jamais complète, vous savez. On peut toujours refaire quelques petites tranches de ci, de là.
Freud disait analyse commencée, analyse jamais terminée.
Bah, oui,
et c'est vrai, il n'en reste pas moins que, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, je suis partagée, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui dit... je pense ici aux six tentures que l'on trouve à Cluny. La dame à la licorne, la dernière, c'est à mon seul désir, et c'est le détachement de tout.
Eh ben, vous revenez, oui, au noviciat, finalement.
Exactement. Et puis, il y a un côté de moi qui dit, mais c'est pas parce que t'as 50 piges et que tu as perdu une partie de ta séduction que tout est fichu.
Ah, parce qu'à 50 ans, on a perdu une partie de sa séduction, vous pensez ?
Oh, en ce qui me concerne, oui. Beaucoup. Beaucoup. Mais pour autant, je ne résous pas à l'idée de... Enfin, je ne me résous pas. Si, s'il le faut, je le ferai bien. À l'idée de ne jamais avoir auprès de moi un homme bienveillant.
Mais je Alors, ne sais vous, pas si... vous avez commencé notre échange en me parlant de Cécile et de sa mère, et vous avez dit finalement, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là aussi dans la conception que vous vous faites de l'amour. Alors, vous me dites que vous avez fait une longue analyse.
Oui.
J'imagine que vous avez un peu exploré cette dimension-là. Parce que finalement, la façon dont on a été aimé dans l'enfance,
ou pas,
conditionne beaucoup nos relations amoureuses futures. Mmh. La façon dont on a vu nos parents s'aimer ou pas.
Mmh.
Donc j'imagine que ça, c'est une des dimensions que vous avez explorées dans votre psychanalyse.
Bien sûr.
Et qu'est-ce que vous avez appris finalement qui pourrait être un frein et qui aurait pu vous conditionner
parce que c'est très simple. Mon début d'existence a été très rock'n'roll. J'ai une mère qui est extrêmement exigeante. Elle va mieux depuis. Mais je devais être sa vitrine à la face du monde, d'une part, et donc je devais être encore plus parfaite qu'elle ne l'était elle-même. Il y avait plus souvent des encouragements à aller plus haut qui étaient formulés sous forme de reproches en mode pas assez.
Vous étiez fille unique ? Vous êtes fille unique ?
Alors, non. Au début, oui. Après, il y a eu une petite sœur. Cette petite sœur est décédée très tôt, à l'âge de 2 ans, alors que j'en avais 5. Et j'ai pas eu de parents pendant 10 ans, à peu près, hein, grosso modo.
Oui, parce qu'ils ne se sont pas remis de...
Ils étaient abîmés dans leur douleur. Oui. Moi-même, j'ai subi un traumatisme majeur à cet âge-là, parce que j'ai fait une mauvaise rencontre avec quelqu'un qui... Bref, j'ai été violée. Et je n'ai pas osé en parler à ma mère.
À 10 ans, vous dites ?
Hein ?
À 10 ans ?
5 ans.
À 5 ans. Donc c'était quelqu'un de la famille ?
Non, pas du tout. C'était quelqu'un dans la cage d'escalier.
D'accord.
Et je n'ai pas osé en parler à ma mère, parce que vu l'état dans lequel elle était, les enfants se croient toujours responsables de leurs parents. Je me disais, je ne peux pas lui infliger ça alors qu'elle vient de vivre quelque chose d'aussi douloureux que la mort de ma petite sœur. Et donc, en fait, les relations se sont tissées sur un mode, je dois tout donner et ça n'est même pas assez. Et je pense que c'est ça qui m'a porté beaucoup préjudice.
C'est effectivement des événements, pour ne pas dire des traumatismes. Vous dites le décès déjà de votre petite sœur.
Oui.
Et le fait que, vous l'exprimez, vous dites pendant 10 ans, je n'ai pas eu de parents parce qu'ils étaient dévastés.
Oui,
et donc, finalement, pas en mesure de prendre soin de vous, au point que ce viol que vous avez subi à l'âge de 5 ans, finalement, personne n'a rien remarqué de changement dans votre comportement.
Non. Il a fallu que je l'apprenne à ma mère alors que j'avais 28 ans. Et il a encore fallu que je la console parce que ça a été un terrible traumatisme pour elle.
Et votre père, comment a-t-il réagi? Comment était votre père vis-à-vis de vous? Vous parlez d'une mère extrêmement exigeante. Quelle relation aviez-vous avec votre père?
Peu. Peu. Je pense qu'il a commencé à s'apercevoir de mon existence quand je suis devenue adolescente.
C'est-à-dire, de quelle façon, à ce moment-là, vous êtes-vous rapproché ou s'est-il rapproché de vous?
À ce moment-là, en fait, lui, de son côté, avait besoin d'être soutenu dans son envie de faire du théâtre, etc., qui lui faisait beaucoup de bien. Et moi, j'avais besoin de vivre ma vie d'adolescente, mais avec une mère qui avait une main de fer. Et donc, on se servait d'excuses réciproques.
J'ai pas compris. J'ai bien compris ce que vous me disiez, mais ça veut dire quoi que vous vous serviez d'excuses réciproques?
Que en fait j'étais chargée de le dédouaner auprès de maman quand il rentrait tard.
Ah, vous étiez son alibi? Je comprends pas.
Non, pas un alibi, un adoucisseur, exactement comme pour le linge.
Mais, c'est-à-dire, quand il rentrait tard, c'est vous qui voliez au secours de votre père? Je ne comprends pas.
C'est-à-dire, si maman commençait à râler, je lui disais, mais enfin, tu comprends, c'est important, il a besoin. Je faisais matelas. Entre
Vous faisiez lien, quoi, entre deux.
Ouais.
Vos parents, alors évidemment, c'est le décès comme ça de votre jeune sœur, évidemment, a été dévastateur pour chacun de vous, mais aussi peut-être pour leur couple. Quel couple formait-il? Parce que là, vous dites, lui, votre père, à un moment, a cherché à s'échapper un peu dans le théâtre. Et votre mère n'a rien relâché de cette main de fer, y compris sur vous. C'est-à-dire que vous dites en même temps, vous n'avez pas eu de parents, mais vous me dites que vous avez une mère très exigeante et qui était tout le temps sur vous, et il fallait faire toujours mieux.
Juste après le décès, on est parti à l'étranger. Maman s'est repliée sur moi. Parce qu'il fallait me faire faire l'école, parce qu'il n'y avait pas d'école française là où nous étions. Donc je faisais l'école du pays le matin et l'école française l'après-midi avec ma mère. Je n'avais pas droit à l'erreur. Et pendant ce temps, il y a eu des moments où je me suis demandé si elle ne me faisait pas payer le fait d'avoir survécu. Ou le fait de ne pas avoir été finalement la première à passer l'arme à gauche, parce que c'était dans l'ordre des choses finalement.
Mais l'enfant qui est survivant peut éprouver cela. parfois. Et y compris penser que ses parents pensent cela, même si ce n'est pas la réalité. Mmh. Et parfois, dans certains comportements, ça peut être interprété de cet ordre-là. Mais enfin, on voit bien que vous avez développé, parce que vous me dites, vous m'avez présenté votre famille, les traits et autres, mais là, on est dans le trauma. Mmh. Et on voit que vous avez développé, même quand je vous écoute parler, finalement... c'est comme si pour vous construire, malgré tout, vous aviez beaucoup développé l'intellect, oui. Tout ce qui est cérébral,
oui.
Mais au détriment, peut-être pour survivre, hein, mais vous êtes coupé au fond d'une partie de vous-même, de vos émotions, parce que on voit bien à travers vos rires, l'autodérision que vous pratiquez sur vous, enfin cette mise à distance. De ce qui peut être douloureux, qui est un mécanisme de défense hein, que vous avez mis en place très tôt, et dont vous êtes peut-être un peu prisonnière malgré vous. Parce que est-ce que la thérapie vous a permis de finalement faire émerger, vous reconnecter un peu à vous-même ? Parce que là, vous me décrivez à distance. Bon. Il y a le décès de votre sœur et le fait que vous étiez très petite, mais enfin cette petite sœur qui n'est plus là du jour au lendemain, et surtout vos parents qui ne sont plus les mêmes parce qu'ils sont dévastés par le chagrin. Et au même moment, et ça c'est des consécutifs, trauma sur trauma, enfin quasiment dans un temps rapproché, vous qui êtes victime d'un abus sexuel à l'âge de 5 ans et dont personne ne s'aperçoit de rien. Donc ça veut dire que tout a été gardé à l'intérieur de vous. Contrôle, vous couper de votre sensibilité, de toute émotion pour retenir.
Non.
Est-ce que la thérapie, est-ce que la thérapie vous a aidé un peu à vous reconnecter à vous-même ?
Oui. Il y a une autre chose aussi que j'ai décelée, c'est que dans la colère de ma mère vis-à-vis de moi, il n'y avait pas que le fait que j'avais survécu. Il y avait aussi le fait que, étant vivante, je l'empêchais de se supprimer elle-même. Parce que moi, je le sentais épidermiquement. Je suis dotée d'une intuition très forte qui fait que je ne suis pas seulement un être d'intellect, je suis aussi toute antenne dehors, depuis toujours. D'ailleurs, elle...
Oui, certainement, mais pour vous-même, j'entends ça, mais pour vous-même...
Mais pour moi-même, j'ai...
Parce que vos antennes, j'entends très bien hein, ce qui pourrait paraître un paradoxe, mais qui n'en est pas un. C'est-à-dire que oui, pour vous adapter, pour finalement, face à des parents qui étaient présents, mais retranchés dans leur douleur, il fallait presque deviner, interpréter. Mais ces fameuses antennes dont vous parlez, malheureusement, pour vous-même, elles ne vous ont pas servi, ou plutôt elles vous ont dirigé vers des hommes qui ne vous ont pas fait du bien, semble-t-il. D'après ce que vous me dites, les rencontres que vous avez faites, vous voyez, c'est comme si là, vos fameuses antennes ne fonctionnaient plus, quand ça vous concerne, vous. Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs. Hein.
Oui, en fait, ce que je me suis dit à cet âge-là, c'est on naît, on vit et on meurt seul.
À 5 ans ?
Pas à 5 ans, un petit peu plus tard, 7-8 ans.
Ouais. Ben, 7-8 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi 7-8 ans ? Parce qu'on y revient toujours à cet âge-là.
Ben parce qu'il me fallait le temps de digérer.
Oui, enfin, on ne digère pas. Un viol subi, ça ne se digère pas comme ça.
Non, puis ça n'a pas été le seul.
Vous voyez, moi, plus je vous écoute, plus je me dis quand même, parce que vous avez commencé à me parler, Florence, en parlant de votre vie sentimentale qui est un désastre. Mais franchement, il y a eu tellement dans votre enfance de drames, de blessures, qu'il y a quelque chose qui reste, qui demeure très douloureux finalement. Et une quête en vous, peut-être d'absolu, d'ailleurs, quand vous parlez de cette crise mystique d'absolu, de calme, de paix, de silence, d'amour aussi, absolu dans la religion, qui vous a fait peut-être d'ailleurs, dans l'amour, entrer en amour comme d'autres entrent en religion, c'est-à-dire totalement.
Oui.
Absolument. Ah oui. Complètement. C'est-à-dire qu'on sent chez vous aussi un idéal très fort et qui est, bon, peut être à l'origine de beaucoup de désillusions, finalement.
En fait, ce serait l'épaisseur de mes attentes qui pourrait décourager les pauvres malheureux qui arrivent en face.
J'entends un peu d'ironie dans ce que vous dites.
Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Dans l'ironie, il y a aussi une profonde conscience de ses propres manques.
Oui, mais je pense que ça aurait besoin d'être encore un peu... Enfin, pour voir au fond ce que vous désirez. Parce que, finalement, vous pourriez aussi, aujourd'hui, arriver à 50 ans. Je ne sais pas, vous ne m'avez pas parlé de vous, dans quel domaine vous travaillez, dans trouver d'autres sources d'épanouissement. Non pas que je dise qu'à 50 ans, c'est un âge où on renonce à la séduction. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez les femmes de 50 ans... Franchement, elles ne sont pas exemptes de séduction.
Hein. On est d'accord.
Bon. Mais quand on a été très blessé, alors je ne dis pas que c'est une solution en soi, mais quand on a été très blessé, parfois dans le domaine amoureux, on peut trouver aussi du bonheur, du plaisir, de l'accomplissement, de l'épanouissement dans d'autres domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être amicalement, ça peut être à travers... une activité artistique. Donc, tout dépend ce que vous désirez, parce qu'on sent encore votre très grande ambivalence, et on comprend, au vu de l'image de l'homme que vous avez, bon, évidemment, une petite fille agressée dans une cage d'escalier par un inconnu qui ne parle, qui ne porte ce fardeau sur ses épaules pendant des années avant de pouvoir se confier. Vous avez grandi aussi avec une image d'homme terrifiante.
Oui.
Bon, terrifiante. Alors, vous êtes allée, me dites-vous, vers des hommes qui, là, on n'est pas dans le registre de l'agression sexuelle, mais qui vous ont fait du mal psychologiquement. Oui. Donc, on reste dans quelque chose de cet ordre-là. Et puis, peut-être de votre rapport à votre corps aussi, parce que vous m'avez dit dans un éclat de rire, mais vous me l'avez quand même dit, qu'à 50 ans, de chez vous, il ne restait plus grand-chose de la séduction. Mais peut-être que la séduction aussi, ça a été compliqué. Quand on a été victime d'une agression sexuelle, le rapport à soi-même, à sa propre séduction, est très compliqué.
Oui.
Parce qu'il y a deux tendances. Soit, effectivement, on fait en sorte, à travers son corps, en s'en prenant à son corps, de faire en sorte de ne plus du tout dégager une image qui peut susciter le désir de l'autre. Soit on peut tomber dans l'hyper-séduction, l'hyper-sexualisation. De son corps. Bon,
tout à fait.
Sont
tout
deux
à fait.
Écueils.
Là, je suis consciente que ces dernières années, parce que j'ai quand j'étais plus jeune et moins abîmée, j'ai toujours beaucoup plu et j'ai toujours perçu ça comme une menace.
Ben oui.
Et donc là, ben c'est. Oui, au moins ces 5 dernières années, j'ai fait ce qu'il fallait pour...
Oui, pour qu'il n'y ait plus de menaces.
Pour éviter. Mmh. Voilà. Après la...
Alors, ça commence peut-être un peu par là, parce que, justement, peut-être par vous occuper un peu de vous. Vous occuper un peu de vous aussi pour... la séduction, elle est aussi par rapport à soi-même. Vous plaire à nouveau, ou en tout cas vous sentir bien dans votre corps, vous alléger d'une certaine façon, et peut-être par une prise en charge.
Au sens propre du terme.
Oui, mais c'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est-à-dire peut-être par une prise en charge aussi corporelle, quand le corps a été agressé, ça peut être, alors il y a plein d'approches, hein, là, il peut y avoir la sophrologie, il peut y avoir aussi des massages un peu thérapeutiques, il peut y avoir plein de choses. Je pense que déjà il faudrait un peu vous réconcilier avec vous-même, parce que je reçois un petit message de Brigitte qui dit qu'il y a quand même de quoi se déconnecter de soi-même, ce qui crée des failles qui ne favorise pas la rencontre d'hommes bienveillants. Vous l'avez souligné avec une certaine ironie, mais oui, ça déjà, forcément, malgré vous, vous pouvez aller vers des hommes parce qui un peu menaçants, finalement, ou qui réveillent chez vous une insécurité, malheureusement.
Oui, en fait, c'est le coup de rejouer indéfiniment ce qu'on n'a pas réussi à résoudre.
Mais au lieu de voir ce que vous n'avez pas réussi aussi, parce que la façon dont vous parlez de vous-même, ça serait peut-être de voir un peu ce que vous avez réussi aussi dans votre vie et vous appuyer là-dessus. Et peut-être reprendre quand même, parallèlement à une approche un peu corporelle, et prendre soin de vous d'une façon ou d'une autre, vous réconcilier un peu avec vous, votre image, et pas seulement en termes d'image. Peut-être aller à nouveau parler de vous pour trouver un peu d'apaisement et savoir au fond qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte. Bon courage à vous, Florence.
Oui.
Merci pour votre appel. Au revoir.
Merci à vous, Caroline. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie.